RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, l'ombre de Donald Trump plane sur le Proche-Orient. Au lendemain du sommet organisé à Riyad avec des pays arabo-musulmans et leurs déclarations, un ministre israélien d'extrême droite a formulé des ambitions annexionnistes concernant la Cisjordanie occupée. On y reviendra. À Bakou, la COP29 et près de 100 chefs d'État attendus aujourd'hui et demain. Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, a appelé à l'action face à l'urgence climatique. Vous l'entendrez. En Abkhazie, des manifestations en cause un accord conclu avec les autorités russes. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis en France, l'Assemblée nationale a rejeté aujourd'hui le projet de loi du budget 2025. Il avait été largement réécrit par la gauche. On y revient en fin de journal. Pas de paix au Moyen-Orient sans le retrait israélien des territoires palestiniens occupés. Voilà le message des dirigeants des pays arabes et musulmans qui étaient réunis hier à l'occasion d'un sommet à Riyad en Arabie Saoudite. Il aura fallu peu de temps pour qu'Israël réponde. Le retour de Donald Trump semble réveiller les ambitions annexionnistes israéliennes. Un ministre israélien de l'extrême droite a notamment déclaré, je cite, « 2025 sera l'année de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie ». C'est l'appellation biblique de la Cisjordanie, territoire palestinien, illégalement occupé par l'État hébreu depuis 1967. À Jérusalem, Sami Bourelifa.
Bezalel Smotrich, colon israélien, suprémaciste juif, ministre des Finances de l'État hébreu. Il est aussi, de fait, le gouverneur de la Cisjordanie occupée, car il a réussi à obtenir du Premier ministre Benjamin Netanyahou la création d'un sous-ministère rattaché à la Défense pour la gestion des activités civiles en Cisjordanie. Son ambition, annexer ce territoire palestinien. Le moment est arrivé, dit-il. Le retour de l'administration Trump nous en offre l'opportunité, affirme celui qui se présente volontiers comme un fasciste. Pour lui, la création d'un État palestinien met en danger l'existence d'Israël, et sa voix n'est pas minoritaire au sein du gouvernement israélien. Selon la radio publique israélienne, Benjamin Netanyahou et ses conseillers travaillent également sur la question sur fond de retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Car durant son premier mandat, le milliardaire républicain a piétiné le droit international pour faire plaisir aux Israéliens. Reconnaissance de Jérusalem, ville en partie annexée, comme la capitale de l'État hébreu. Reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan syrien occupé. Et l'administration Trump avait même déclaré que les colonies israéliennes en Palestine n'étaient pas illégales. Sami Bourelifa, Jérusalem, RFI.
Israël a annoncé l'ouverture aujourd'hui d'un nouveau point de passage pour l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Cette déclaration est intervenue juste avant la date limite fixée par les États-Unis pour l'augmentation de cette aide. Mais c'est insuffisant, souligne l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA et 8 ONG internationales. Depuis le début de l'offensive menée par les Israéliens en octobre 2023, plus de 43 600 morts ont été dénombrés dans le territoire palestinien, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Au Liban, après quasiment un an de tirs transfrontaliers avec Israël, la situation a dégénéré en conflit ouvert le 23 septembre dernier. Aujourd'hui, au moins 11 personnes ont été tuées dans des frappes ayant visé des villages à l'est de Beyrouth, annonce du ministère libanais de la Santé. La banlieue sud de la capitale a aussi été touchée par des bombardements. Le ministère libanais de la Santé a annoncé 12 autres morts dans une frappe israélienne sur une localité de la zone. De son côté, le Hezbollah pro-iranien a notamment annoncé lancer des missiles sur une base aérienne israélienne au sud de Tel Aviv. Aux États-Unis, le président élu Donald Trump a annoncé ce soir nommer l'ex-gouverneur Mike Huckabee au poste d'ambassadeur en Israël. Il a également annoncé la nomination de l'élu républicain de Floride, Mike Waltz, au poste ultra-stratégique de conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Donald Trump le présente comme un solide champion de la vision de l'Amérique d'abord, America First. Le président prévoit aussi de nommer d'autres personnes à des postes clés de sa future administration, des proches en l'occurrence. Marco Rubio, sénateur de Floride, est pressenti pour devenir le chef de la diplomatie américaine. Diplomatie qui sera probablement marquée par une ligne dure face à la Chine. Marco Rubio plaide également pour un renforcement des sanctions américaines contre l'Iran, alors que Téhéran tente de développer au maximum son programme nucléaire. RFI, il est minuit 4 à Bakou. La cérémonie d'ouverture de la COP29 organisée en Azerbaïdjan a eu lieu hier et ce mardi et demain. Un peu moins de 100 chefs d'État sont et étaient attendus. Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, a appelé à l'action face à l'urgence climatique aujourd'hui. Une prise de parole qui a une dimension particulière puisque le sud de l'Espagne a été frappé par des inondations meurtrières récemment dans la région de Valence. Les secours sont toujours à pied d'œuvre au sud du pays et les autorités sont très critiquées pour leur mauvaise gestion de la catastrophe. La prise de parole de Pedro Sanchez à Bakou, écoutez.
Le changement climatique tue. Rien que l'année dernière, il a tué plus de 300 000 personnes et il vient de contribuer à la mort de plus de 220 de mes compatriotes en Espagne dans la plus grande catastrophe naturelle de notre histoire. Une catastrophe qui, selon les premières données, aurait été moins probable et moins intense sans l'effet du changement climatique. La planète nous envoie donc des signaux de plus en plus clairs et pourtant, en ce moment crucial pour l'humanité, nous voyons de nombreux gouvernements tergiverser, ralentir, alors qu'ils devraient aller plus vite, ou même nier l'évidence, faire demi-tour et marcher à reculons pour revenir vers le pétrole et les véhicules à combustion.
Volviendo al petróleo, a los vehículos de combustión.
Voilà pour ces propos de Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol. On parle à présent de l'Abkhazie pour l'Organisation des Nations Unies. L'Abkhazie est un des territoires géorgiens occupés par la Russie avec l'Ossétie du Sud et situé dans les frontières internationalement reconnues de la Géorgie. Et récemment, un accord conclu en Abkhazie avec les autorités russes a suscité des manifestations pour le moins inhabituelles et le blocage de plusieurs axes routiers menant à Soukhoumi. C'est la principale ville de ce territoire séparatiste situé donc en Géorgie. C'est un texte de loi qui aurait déclenché ces tensions et permis aux entreprises russes d'investir dans le territoire. Les précisions de Daniel Vallot.
C'est un accord signé à la fin du mois dernier entre la Russie et les autorités abkhazes qui a suscité la colère de l'opposition et une série de manifestations particulièrement tendues dans le petit territoire du Caucase. L'accord devait permettre aux entreprises russes d'investir en Abkhazie et pour l'opposition, ce texte aurait pu entraîner la vente d'actifs immobiliers sur le littoral de la mer Noire, alors que la vente d'immobilier résidentiel est interdite aux étrangers depuis les années 90. Les manifestations devant le Parlement local ont entraîné l'arrestation de 5 opposants et le blocage des ponts menant à Soukhoumi, la principale ville du territoire. Devant l'ampleur de la mobilisation et le risque de paralysie, les autorités séparatistes ont finalement libéré les 5 opposants. Le territoire qui a proclamé son indépendance au début des années 90 n'a été reconnu à ce jour que par une poignée de pays, dont la Russie. La Russie qui maintient une présence militaire sur le sol abkhaz depuis la guerre de 2008. Contre la Géorgie.
Les précisions de Daniel Vallot. RFI, il est 21h07 à Paris. L'Assemblée nationale a rejeté aujourd'hui le projet de loi du budget 2025, un budget largement réécrit par la gauche. C'est tout simplement la première fois que cela se produit sous la Ve République en France. Raphaël Delvolvé.
Beaucoup de Français l'apprennent ce soir. Ce rejet de la première partie du budget empêche l'examen de la seconde partie, le volet dépenses. Le texte part au Sénat dans sa version initiale, celle proposée par Michel Barnier et ses 60 milliards d'économies pour arriver à un déficit de 5% du PIB l'an prochain. Un projet largement modifié, pour ne pas dire totalement défiguré ici par les députés, notamment de gauche et du Rassemblement national. Beaucoup d'impôts sur les super-profits, les super-dividendes. La fin également de la contribution française à l'Europe a été votée. Il y avait, selon les estimations, jusqu'à 75 milliards d'euros de taxes. Déception, voire colère ce soir dans les rangs du nouveau Front populaire. Agacement palpable chez les macronistes qui en veulent notamment aux socialistes d'avoir trop suivi les insoumis. Chez les républicains, eux aussi membres de la coalition au pouvoir, des sourires ce soir car le texte part maintenant au Sénat donc, où la droite et le centre sont majoritaires et devraient aller dans le sens du chef du gouvernement, Michel Barnier, qui sera de toute façon obligé de revenir ici à l'Assemblée nationale avec peut-être cette fois un 49-3 sous la main.
Raphaël Delvolvé. Et à l'Élysée aujourd'hui, Emmanuel Macron a reçu le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. L'Europe a trop longtemps évité de porter le fardeau de sa propre sécurité et doit continuer à renforcer sa défense. Voilà ce qu'a notamment déclaré le président français. Le déploiement de troupes nord-coréennes aux côtés de Moscou a aussi été commenté par le chef d'État français. C'est une escalade grave dans le conflit en Ukraine. Il a également souligné que le soutien à Kiev demeurait une priorité. absolue. De son côté, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a appelé les Occidentaux à faire plus que seulement permettre à l'Ukraine de se battre. Fin de citation.